Bonjour frères et sœurs. Merci pour ta présidence, Francis. Tu as soulevé, relevé plusieurs points auxquels j'aimerais faire référence ce matin. Tout cela conduit par l'Esprit du Seigneur. On va lire un texte, pas un texte, mais un verset bien connu dans la première épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée au chapitre 4, un verset dans lequel l'apôtre Paul, le grand apôtre, s'adresse à son enfant spirituel, à son fils spirituel, un jeune homme d'une trentaine d'années, timide, sensible, manquant peut-être une certaine période d'assurance, et un enfant de mère juive converti à Jésus, converti au christianisme, et de père grec, un enfant, un jeune, à 30 ans on n'est plus vraiment un enfant, quoique en chacun de nous disent certains sommeillent un petit enfant, mais quelqu'un qui a été consacré par imposition des mains pour l'exercice d'un ministère, Timothée, aussi collaborateur de l'apôtre Paul. Et l'apôtre lui écrit donc une première lettre, la première à Timothée, puis une deuxième, et dans la première, au chapitre 4, verset 12, il encourage, il donne comme recommandation, comme injonction, c'est davantage un impératif, un commandement qu'autre chose, et l'apôtre Paul va dire à Timothée, donc en chapitre 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Sois un modèle devant tous les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » En 1990, l'université d'Harvard aux États-Unis a mené une étude approfondie pour déterminer quelle était la manière la plus efficace de transformer une vie. Quelle est la manière la plus efficace pour transformer une vie ? Vous savez quel a été le résultat ? La meilleure manière de transformer une vie, c'est par la puissance de l'exemple ou par le pouvoir du modèle. Je vois, je suis séduit et je m'identifie. Finalement, ils n'ont rien inventé. Vous connaissez Albert Schweitzer, ce missionnaire docteur qui est décédé en 1965, je m'en souviens parce que c'est la date de ma naissance, a dit ceci en rapport avec l'exemple, justement. L'exemple n'est pas l'élément principal pour influencer autrui, c'est la seule chose. L'exemple n'est pas l'élément principal pour influencer l'autre, autrui, c'est la seule chose qui permet d'influencer l'autre. Le modèle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul encourage Timothée à être un modèle pour les fidèles, un modèle, une référence, un point de référence, un point de mire. Et c'est aussi ce que donc la Bible affirme dans le texte que nous avons lu. Le pouvoir de l'exemple, la puissance du modèle, le pouvoir du modèle, il est énorme. Combien nos jeunes ne sont-ils pas impressionnés, influencés par les divers modèles qu'ils voient graviter autour d'eux, les chanteurs, les acteurs, les sportifs de haut niveau, auxquels ils s'identifient, ils aiment ressembler. D'ailleurs, le marketing l'a bien compris, quand on voit par exemple toutes ces vareuses qui sont proposées aux jeunes avec le nom des vedettes sportives à l'arrière, hein. Donc, et puis ces parfums qui sont vantés par l'une ou l'autre célébrité et auxquels on aime s'identifier, une telle actrice a utilisé ce parfum, mais je l'essayerai bien. Ou encore, ces livres de mode à travers lesquels on peut voir des coupes de cheveux et se référer à certains modèles. Je vous vois sourire parce que pour moi, le modèle, c'est le chroniqueur qu'il y a à la RTBF, là, Stéphane. J'aime bien sa coupe de cheveux. C'est mon modèle. Donc nous avons des référents, nous avons des modèles. Ou bien l'ensemble que porte une telle ou une telle personne. Ouh, ça je l'essaierai bien pour moi aussi. Les modèles. La puissance ou l'influence du modèle. Le modèle, c'est une référence, c'est un point de repère, c'est une source d'inspiration. Mais bien au-delà de ces modèles qui sont extérieurs, de ces modèles du paraître, de ces modèles esthétiques, la Bible envisage aussi d'autres modèles qui sont tout à fait différents. Des modèles spirituels, des modèles moraux, des modèles éthiques, dont Jésus est la référence par excellence. Alors Paul, ici, dans le verset qu'on a lu, il envisage 5 facettes au modèle auquel il encourage Timothée à être. La première facette, comme nous l'avons lu, c'est un modèle en parole, puis un modèle en conduite, puis un modèle en amour, après un modèle en foi, et enfin un modèle en pureté. 5 facettes du modèle qu'envisage Paul, l'apôtre, pour son enfant spirituel Timothée. Alors, chacun de ces éléments constitue une source intarissable de réflexion, de méditation. Alors, on ne va pas s'attarder de long en large sur chacun de ces éléments, mais on va les brosser brièvement et peut-être rappeler la pertinence de chacun de ces éléments aussi pour chacune de nos vies, le modèle. Et le premier élément que Paul cite en premier lieu et que Paul demande à Timothée d'être ou d'avoir, c'est la parole. Sois un modèle en parole. Et ce n'est pas anodin si l'apôtre Paul place en premier lieu le modèle de la parole que doit refléter Timothée. Ce n'est pas anodin, tant l'usage de la langue peut être ô combien redoutable. L'apôtre Jacques, dans son chapitre 3, dans lequel il parle de long en large de l'usage de la langue, à bon ou à mauvais escient, dira qu'elle est pleine d'un venin mortel, comme celui d'une vipère aspique. Il dira, le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 11, si je me souviens bien, dira ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est grave. Le juge qui est là, encore dans certaines contrées, dans certains pays maintenant, d'un mot peut condamner quelqu'un à la peine de mort. D'un mot peut gracier quelqu'un ou le disculper pour qu'il conserve la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On peut détruire quelqu'un avec sa langue. Pas seulement le détruire physiquement, mais on peut le détruire au niveau de sa réputation, au niveau de son être. On peut le casser, on peut le blesser à un point tel qu'on anéantit la personne. Alors, est-ce qu'on utilise nos langues à mauvais escient pour maudire, pour mépriser, pour mentir, pour blesser l'autre? Comment est-ce qu'on utilise notre langue? Est-ce qu'on utilise notre langue avec des paroles destructrices? Si tel est le cas, c'est un péché. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et la Bible nous encourage au contraire à utiliser nos langues à bon escient, à prononcer de bonnes paroles, des paroles aimables, des paroles d'encouragement, des paroles bienfaisantes, des paroles de grâce. Voilà ce à quoi la Bible, la parole de Dieu, nous encourage. À prononcer, à proférer des paroles constructrices, des paroles d'encouragement. Sois un modèle en parole, dira Paul à Timothée. Alors, nos mots, est-ce qu'ils brûlent comme un feu qui blesse? Ou est-ce qu'ils sont comme un baume qui apaise, qui apporte un effet bienfaisant? Quelle est la nature des mots qui sortent de nos bouches? Sois un modèle en parole, écrira Paul à Timothée. Est-ce que je suis un modèle en parole? Ou est-ce que mes propos sont des propos amers, destructeurs, qui n'édifient pas, critiques? Paul dira encore en Colossiens chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. » Autrement dit, que vos propos, que vos paroles, que les mots qui sortent de votre bouche aient de la saveur. Que ça ne soit pas des mots fades, que ça ne soit pas des mots négatifs, mais au contraire, qu'ils apportent de la saveur. Quelque chose qui fait du bien. Voilà ce à quoi Paul encourage aussi les Colossiens. Et puis, même quand l'apôtre Paul encourage Timothée à reprendre les fidèles, il lui conseille en 2 Timothée chapitre 4 verset 2, de le faire, eh bien, avec douceur, avec amour, avec humilité. La puissance des mots. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Et puis, il y a la grossièreté. C'est difficile de faire abstraction de tous ces propos dont le monde tente de nous imprégner. Combien de fois je dois reprendre mes fils, là, parfois ils disent des mots, je dis, mais arrête de dire ça. Et puis ça revient. La grossièreté. Et puis moi aussi, je dis parfois des grossièretés, malheureusement. Surtout quand je suis en colère. Et puis après, ils sont là. Je ne suis pas un bon exemple. La grossièreté. Et pourtant, l'apôtre Paul l'écrit. Quand il écrit aux Éphésiens, chapitre 14, verset 29, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. » Et puis au Colossiens, chapitre 3, verset 8, il dira « Qu'aucune parole grossière ou bien qu'aucune injure ne sorte de votre bouche. » Et pourtant, on a tellement difficile à se départir, à se défaire de ces propos, de ce mauvais langage qui est là et dont le monde nous imprègne. La parole. Sois un modèle en parole. Est-ce que je suis un modèle en parole? C'est ce à quoi invite, en tout cas, l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse à Timothée. Deuxième point, Paul exhorte Timothée à être un modèle en conduite, dans sa manière. Dans la manière de se comporter. Sois un modèle en parole, mais aussi en conduite. Paul a le souci que le discours de Timothée colle avec son comportement, avec son attitude, avec son tempérament. Paul ne veut pas qu'il y ait un décalage entre ce que Timothée dit et ce que Timothée est. Il veut lui éviter ça. Paul ne veut pas que Timothée prêche en disant « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Il faut qu'il y ait une concordance entre la manière de parler, de prêcher, de discourir de Timothée et sa manière d'être, de vivre, son comportement, son attitude. Paul souhaite que la ligne de conduite de Timothée, disciple de Jésus, transparaisse à travers sa vie. Et Pierre aussi, il affirmait la même chose à ses destinataires. En 1 Pierre chapitre 1 verset 15, nous lisons « Vous m'êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Et Paul encourage Timothée à avoir la même conduite. Sois un modèle en conduite. Et quelle conduite est-ce que nous avons pour ceux qui nous voient vivre, qui gravitent autour de nous? Pierre était un modèle dans sa conduite. L'apôtre Paul encourage aussi Timothée à être un modèle dans sa conduite. Ma conduite est-elle entachée d'un mauvais témoignage ou d'une mauvaise habitude dans l'un ou l'autre domaine? Est-elle en contradiction avec mon message ou mon statut de chrétien? Ou bien ma conduite est-elle une référence, une source d'inspiration pour ceux qui me voient vivre? Une source d'inspiration qui donnera peut-être aussi à l'autre l'envie de découvrir et de suivre Jésus-Christ. Sois un modèle en conduite, écrit Paul à Timothée. Et puis, il y a une troisième facette que Paul envisage lorsqu'il s'adresse à Timothée, et il lui dit, sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois aussi un modèle en amour. Et l'amour envisagé ici n'est autre que le fameux amour agapé. Ce n'est pas les autres formes d'amour. L'amour agapé, l'amour qui ne se limite pas au verbe, mais l'amour qui se traduit dans les actions, dans les actes, un amour qui se démontre. Et c'est l'apôtre Jean qui dira dans sa première épître, « Petits enfants », c'est l'expression par excellence qu'il utilise lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, « Petits enfants, n'aimez pas seulement en parole et avec la langue, mais aimez aussi en action et en vérité. » Un amour qui se démontre, un amour qui se manifeste, un amour qui est visible, qui s'établit. Il ne suffit pas de dire « Je t'aime ». Encore faut-il le démontrer. Et c'est cet amour-là dont Paul parle à Timothée. Sois un modèle en amour. Un amour dynamique qui se traduit de façon authentique, de façon vraie. Petits enfants, n'aimons pas en parole, mais en action et en vérité. Un amour authentique, un amour vrai. Dans 1 Corinthiens 13, que nous connaissons bien, ce chant sur l'amour, Paul rappelle aux Corinthiens et à nous aussi, en l'occurrence, les implications de l'amour. L'amour ne vise pas ses propres intérêts, mais il vise ceux des autres. L'amour vise à rendre l'autre heureux. Est-ce que je veux rendre l'autre heureux? Est-ce que l'amour de Dieu me motive à un point tel que je veux viser le bien de l'autre et le rendre heureux? Aimer, c'est encore être patient avec l'autre. C'est pardonner. Il suffit de relire ce magnifique chapitre sur l'amour dans 1 Corinthiens 13. Pour rappeler à nos mémoires les implications de l'amour de Jésus dans nos vies. Alors nous ne devrions pas aimer un frère parce qu'il est facile à aimer, ou bien parce qu'il est agréable. Nous devrions aimer l'autre tout simplement parce que Dieu nous demande de l'aimer. Dieu te demande d'aimer. La religion chrétienne est la religion de l'amour et du pardon. Aimer. Et cet amour-là devrait se concrétiser jour après jour, se renouveler jour après jour. Aujourd'hui, un nouveau jour, comment est-ce que je vais aimer l'autre? Comment est-ce que je vais démontrer mon amour pour l'autre? Comment est-ce que je vais définir l'amour que je ressens ou que je ne ressens pas? Parce que l'amour de Dieu n'est pas seulement un amour qu'on ressent, c'est un amour dynamique. Je veux t'aimer parce que Dieu le demande. C'est un amour qui implique autant la volonté que les sentiments, même peut-être davantage. Et puis, il y a cette quatrième facette. Paul demande à son enfant dans la foi, Timothée, d'être un modèle en foi. La foi. Cette foi qui transporte les montagnes. Cette foi qui défie les circonstances. Cette foi qui défie les sens. C'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et la conviction de celles qu'on espère. Sois un modèle en foi. Cette foi qui saisit et qui s'approprie toutes les promesses de Dieu. Dieu a fait tant de promesses dans sa parole. Est-ce que je les saisis par la foi? Sois un modèle en foi. Cette foi ou cette confiance en Dieu, comme je le disais tout à l'heure il y a un instant, quelles que soient les circonstances, qui orientent nos yeux au-delà des sombres nuages. Cette foi qui m'aide à avoir une vision, un état d'esprit optimiste. Ce n'est pas une pensée positive, mais c'est la foi. Est-ce que je suis un modèle de foi? Et Paul demande à ce que Timothée ait cette foi profonde et contagieuse au même titre que les patriarches avaient cette foi géante. Abraham, en Hébreu 11, on voit ces héros de la foi, Abraham, Moïse, Isaac et tant d'autres, qui ont fait preuve de cette foi profonde en dépit des circonstances, parce que Dieu l'a dit, j'ai confiance. Je le crois, je le saisis par la foi, je fais mienne ces paroles, la foi. Sois un modèle en foi. Est-ce que notre foi est contagieuse? Est-ce que notre foi interpelle? Est-ce que notre foi donne envie d'être imité? Et puis enfin, il y a cette dernière recommandation de Paul à Timothée. Sois un modèle en pureté. Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois un modèle en amour, sois un modèle en foi, sois un modèle en pureté. C'était difficile pour le jeune Timothée de fuir toutes ces passions de la jeunesse dont parle Paul. Mais c'est aussi difficile pour nous aujourd'hui, pour les jeunes, mais pour nous d'une façon globale, d'une façon générale. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus dépravé sur le plan moral, sur le plan éthique. Il n'y a plus de repères. La légèreté s'affiche partout. Et c'est difficile aussi pour nous aujourd'hui de rester purs. Sois un modèle en pureté, écrit Paul à Timothée. Paul tient les mêmes recommandations lorsqu'il écrit aux Philippiens. Je n'ai pas noté la référence, mais il dit ceci, il écrit ceci. Faites tout sans murmurer ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Faites tout sans murmure, ni discussion, pour être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue. Pour le monde d'aujourd'hui, vivre dans la pureté, c'est anormal. C'est devenu un anachronisme. C'est hors norme. C'est tout à fait anormal pour le monde aujourd'hui que quelqu'un recherche la pureté. C'est inimaginable, c'est inconcevable. La clé pour rejeter la souillure et rechercher la pureté, où se trouve-t-elle? On la trouve dans le psaume 119, verset 9. Où nous lisons ceci de la part du psalmiste. Comment un jeune homme, sans doute aussi personne plus âgée, rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Et peu après, le psalmiste au verset 11 écrit « Je serre ta parole contre mon cœur, le siège des sentiments, des émotions, de l'affection, le siège de l'affection, des affections. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je laisse mon cœur s'imbiber de ta parole. Et quand le cœur est rempli de la parole de Dieu, il n'y a plus de place pour autre chose. Je serre ta parole contre mon cœur. Je médite ta parole. Je lis, je médite ta parole. Je m'imprègne de ta parole. C'est difficile. C'est difficile. Ça demande un effort. Ça demande une discipline. Ça ne vient pas comme ça. Mais c'est la clé, c'est le secret pour pouvoir fuir les mauvais désirs et rechercher à mener une vie pure. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher. Je fais de ta parole mon affection. J'affectionne ta parole par-dessus tout. Et la parole de Dieu remplit nos cœurs et il n'y a plus de place pour autre chose. Et c'est difficile. Et puis Jésus dira, ta parole et la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole et la vérité. La parole de Dieu a un effet purificateur sur nos vies. C'est une parole vivante. La parole de Dieu a un effet purificateur sur nos vies. Sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité. On en arrive à la conclusion. Sois un modèle, écrit Paul à Timothée. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en conduite. Sois un modèle en amour, en foi, en pureté. Cinq facettes importantes qui font partie du modèle que Paul vœux pour Timothée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel modèle est-ce que je suis pour mes amis? Quel modèle est-ce que je suis pour les membres de ma famille? Quel modèle est-ce que je suis pour mes collègues, pour mes voisins, pour mes enfants? Quel modèle est-ce que je suis? Je ne suis pas toujours un bon modèle. Est-ce que ma vie marque son entourage de son empreinte? Est-ce que ma vie interpelle l'autre? Paul écrit ceci aux Philippiens, au chapitre 3, versets 17 et 18. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul était un modèle. Paul était une référence. Paul était une référence pour Timothée. Paul est une référence pour nous. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Christ est la référence suprême. Christ est le top modèle. Et l'apôtre Paul nous encourage à suivre le modèle que Jésus nous a laissé. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Et puis ça continue. Ils ont pour Dieu leur ventre. Mais ce n'est pas le ventre, l'estomac. C'est plus bas. Il ne faut pas faire un schéma. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils marchent en ennemi de la foi. Alors ne marchons pas en ennemi de la foi, frères et sœurs. Mais demandons à Dieu toute sa grâce pour pouvoir suivre l'exemple que Jésus nous a laissé, afin de lui ressembler toujours plus, toujours davantage, et peut-être aussi d'impacter la vie des autres, afin qu'ils puissent eux aussi avoir ce désir de rencontrer Jésus, de le suivre et de vivre en suivant son modèle. Soyons des modèles comme d'autres l'ont été aussi pour chacun d'entre nous.